santé. Et sur le principe, on a raison. Cette solution est d'ailleurs toujours d'actualité.
La peste noire frappe aussi la riche cité commerciale de Venise, porte de l'Orient et point de rencontre des voyageurs venus de tout le monde connu. Au lieu de se fermer complètement, la ville applique une mesure révolutionnaire pour l'époque. En 1347, le doge impose une interdiction de port aux navires soupçonnés de convoyer des pestiférés. Et en 1423, les malades sont emmenés sur une île, une isola en italien, première mise en œuvre de l'isolement sanitaire. La petite île de Sainte-Marie de Nazareth, aujourd'hui Lazzaretto Vecchio, devient un lazaret. On y soigne les pestiférés, mais rares sont ceux qui réchappent à la maladie.
C'était l'île de l'horreur. On pourrait lui appliquer une citation de l'enfer de Dante. « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. » Il y avait très peu de survivants, mais ceux qui en réchappaient étaient ensuite immunisés contre la peste.
À partir de 1468, tous ceux qui veulent entrer dans Venise doivent passer par une phase d'isolement, même lorsqu'ils ne présentent aucun symptôme. Ils passent 40 jours sur l'île Lazzaretto Nuovo. Au terme de cette quarantaine, et en l'absence de symptômes, ils peuvent entrer dans la ville.
Venise était entièrement dépendante de son activité commerciale. Et la plus grande crainte des autorités, c'était que l'économie ne s'effondre. Cette question est toujours d'actualité. Elle reste centrale pour les gouvernements en période d'épidémie et a même tendance à éclipser les intérêts de l'individu. C'est ce qui explique en tout cas ces mesures de quarantaine très strictes.
La peste noire marque une rupture dans la lutte contre les épidémies avec l'établissement de nouvelles stratégies comme la quarantaine et l'isolement. C'est un jalon dans l'histoire de l'hygiène. Mais la peur des épidémies modifie aussi notre rapport au corps et à l'eau. Et le XVIIe siècle est ainsi marqué par des idées qui nous paraissent aujourd'hui très singulières. Le château de Versailles témoigne de la puissance et de la splendeur du roi Soleil. C'est une ville-palais, symbole de la monarchie absolue, où vit une cour nombreuse. L'eau est un élément phare de la vie de château. Non pour l'hygiène, mais pour les fabuleux bassins, fontaines et jeux d'eau qu'elle alimente. Paradoxe de l'époque, on soigne son apparence, mais sans faire aucun cas de la propreté. 4000 personnes vivent aux côtés de la famille royale. Il y a beaucoup de passages, car le château est ouvert à tous, y compris aux gens du peuple qui arpentent librement ses galeries. Les portes dérobées ouvrent sur un tout autre monde. Les nobles désargentés et leurs serviteurs habitent les étages supérieurs, souvent dans des conditions modestes. Les commodités sont rares, tout comme l'intimité. Les domestiques se partagent des pièces austères.
Le confort était relatif par rapport à la position que vous occupiez à la cour. Si vous étiez dans les hautes sphères du pouvoir, en ayant une charge très importante, évidemment, vous pouviez disposer d'un appartement avec tout le confort moderne tel qu'on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire avec plusieurs pièces ou des toilettes privées.
Seuls les princes et les courtisans ont droit aux chaises percées qui sont régulièrement vidées par des armées de valets. Il n'est pas rare que le contenu soit jeté par la fenêtre. Les autres doivent se soulager dans des latrines situées dans des alcôves ou derrière les paravents.
On sait qu'évidemment, les gens pouvaient s'oublier dans les corridors puisque les gens extérieurs venaient. Il y avait des toilettes à Versailles, il y avait des toilettes publiques, mais pas en nombre suffisant pour le public qui s'y pressait. Ce n'était pas les habitants de Versailles qui urinaient dans le château, c'était les gens extérieurs.
Madame Palatine, l'épouse du frère de Louis XIV, est restée célèbre pour ses témoignages piquants de la vie de cour, qu'elle décrit souvent en termes très crus.
Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez. Ici, je suis obligée de garder mon étron pour le soir. Il n'y a point de chaise percée aux maisons du côté de la forêt. J'ai le malheur d'en habiter une et par conséquent, le chagrin d'aller chier dehors.
La belle-sœur du roi Soleil en est réduite à se soulager dans la nature, comme à l'aube de l'humanité. Il faut attendre le règne de Louis XV pour que la situation s'améliore. Le nouveau roi fait même installer des chaises dites à l'anglaise, avec évacuation par chasse d'eau. La toilette désigne alors une petite nappe en toile où l'on pose le nécessaire pour se maquiller et se coiffer. On se sert aussi d'une étoffe pour se laver, mais sans eau. Selon la doctrine médicale de l'époque, les pores de la peau laissent entrer toutes sortes de maladies. L'eau est considérée comme dangereuse. Quant au bain, il n'en est pas question. Le rôle de la poudre est de boucher les pores pour fermer la porte aux infections. L'avantage est qu'elle sent bon et masque les odeurs corporelles.
Nous sommes alors dans ce qu'on appelle l'époque moderne. Mais il ne faut pas en conclure qu'on a la même conception de l'hygiène qu'aujourd'hui. Le besoin de propreté existe bel et bien. Mais on a une toute autre notion de la propreté, celle des vêtements, de l'apparence extérieure.
L'homme bien né porte une chemise blanche, parfois plus coûteuse qu'un meuble. Il en change plusieurs fois par jour, car mettre du linge propre équivaut alors à se laver. Le lin blanc est réservé aux classes les plus fortunées. On le met donc en valeur. On ne se lave pas non plus les cheveux. On les couvre d'une lourde perruque, elle-même poudrée. Ce sont de véritables nids à puces et à poux. Le siècle des Lumières va mettre fin à la phobie de l'eau et aux superstitions du passé. La raison et le savoir vont aussi prévaloir en matière d'hygiène. Et l'État va saisir toute l'importance de la santé individuelle et collective pour une société performante.
On a besoin de gens en bonne santé pour travailler au champ, pour avoir un commerce florissant, mais aussi pour avoir une armée nombreuse. Ce sont des intérêts très concrets. Et de fait, le souverain éclairé du XVIIIe siècle se met à prendre soin de la santé de ses sujets, et ce, du berceau à la tombe.
En Allemagne, Johann Peter Frank publie un traité intitulé « Système complet de politique médicale » qui englobe tous les aspects de la santé et l'hygiène publique et individuelle. L'une des avancées de l'époque est le retour de l'eau comme élément indispensable à l'hygiène corporelle. En 1761, le sieur Poitevin affrète sur la Seine un bateau équipé de cabines de bain chaud, alimentées par l'eau de la Seine. L'idée se répand dans toute l'Europe. En Angleterre, on voit apparaître des cabines sur roues, tractées dans la mer par des chevaux. C'est le début des bains de mer, dont la popularité ne fera que croître au fil du temps. Au XIXe siècle, l'industrialisation transforme le quotidien des Européens. Les villes se développent rapidement et les ouvriers s'entassent dans des logements exigus. Les cheminées des usines polluent l'air, et l'eau souillée entraîne une nouvelle pandémie dévastatrice. Une maladie jusqu'alors inconnue, le choléra asiatique, provoque plusieurs pandémies au cours du siècle. La deuxième, partie d'Inde en 1826, se propage ensuite en Europe et dans le monde entier. L'agent pathogène, Vibrio cholerae, provoque diarrhée et vomissements sévères, ainsi que de fortes douleurs abdominales. Le patient est rapidement déshydraté et peut mourir en l'espace de quelques heures. Dès l'apparition des premiers cas à Danzig en juin 1831, le ministère de l'Intérieur prussien impose une quarantaine très stricte. Certaines zones sont confinées et interdites d'accès. La loi martiale étant déclarée, on peut tirer à vue sur les contrevenants. En septembre, le roi Frédéric Guillaume III déclare
« Les mesures d'isolement aux frontières et à l'intérieur du pays montrent déjà des effets défavorables sur la situation commerciale de la ville. Elles menacent la prospérité de nombreuses familles et leurs effets pourraient bien être plus funestes que la maladie elle-même. »
Les mesures de quarantaine sont levées. Le choléra se répand rapidement dans toute l'Europe occidentale.
Les mesures de quarantaine, ou cordons sanitaires, sont controversées depuis leur invention à la fin du Moyen-Âge, parce qu'elles vont à l'encontre des intérêts du commerce et de la circulation des biens et des personnes. On voit bien à l'heure actuelle que cela reste un dilemme et il faut peser le pour et le contre. Du simple point de vue de la survie, si on ferme complètement les commerces, si on interdit toute allée et venue, on risque de couper les vivres de la population. En d'autres termes, il est toujours nécessaire de trouver un équilibre entre les mesures restrictives contre l'épidémie et l'autorisation du commerce et de la circulation.
En 1832, Paris compte environ 1 million d'habitants. Et dans ses rues semées d'immondices, le choléra fait des milliers de victimes. Heinrich Heine est alors correspondant de l'Allgemeine Zeitung d'Augsbourg.
Par la grande misère qui règne ici, par l'immense malpropreté qu'on y trouve ailleurs encore que dans les classes les plus pauvres, le choléra devait s'étendre avec plus de promptitude et d'horreur qu'en aucun autre lieu. Ça a été une époque de terreur.
Devenu empereur des Français en 1852, Napoléon III veut faire de Paris une capitale impériale resplendissante. Une métropole moderne et hygiénique. Il confie la mise en œuvre de son projet au très conservateur préfet de la Seine, le baron Haussmann. En une vingtaine d'années, ces grands travaux transforment radicalement la capitale. Des pâtés de maisons entières sont rasés, 20 000 immeubles en tout, provoquant l'exode de la population pauvre vers les faubourgs. À la place, on bâtit des immeubles de rapport plus nombreux dont les façades répondent à un cahier des charges précis, créant ainsi un paysage urbain unifié. Haussmann fait percer de larges axes dans la ville pour y faire entrer la lumière, l'air et la verdure. Les activités industrielles sont refoulées à la périphérie. On construit des halles modernes et un nouvel opéra. D'autres grandes métropoles européennes vont s'inspirer de ces grands travaux. On installe partout des urinoirs publics pour hommes, les Vespasiennes, afin de mettre un terme aux épanchements désordonnés d'une partie de la gent masculine. En même temps qu'on perce les rues, l'architecte Eugène Belgrand fait construire un vaste réseau d'adduction et d'évacuation des eaux. Paris devient un modèle de ville moderne, conforme aux visées hygiénistes de l'époque. Paris dispose depuis lors d'un réseau d'égouts sans équivalent dans le monde. Les canalisations s'étendent sur 2600 km, soit davantage que la distance de la capitale à Moscou. Elles évacuent chaque jour 6 milliards de litres d'eau. Le réseau est un reflet souterrain de la ville. On y retrouve les noms des rues,